Bonjour, mesdames et messieurs et les autres, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébrunch. Je suis Louis Laramé, accompagné comme toujours de mes co-animateurs Jim Boulin.
Hello.
Et Mélina Lopez-Nado.
Bonjour.
Comment allez-vous, cher?
Ça va super bien.
Oui.
Ça va très bien, oui.
Jim, qu'est-ce que tu as comme nouvelle pour nous cette semaine?
Ben, en fait, vous vous souvenez du film Gabriel qui mettait en vedette une jeune femme atteinte de déficience intellectuelle?
Oui.
Mm-hmm. Oui. Oui.
Eh bien, la réalisatrice de ce film-là, Louise Archambault, elle va être de retour au cinéma et elle prépare un film qui va mettre en vedette nul autre que Rémi Girard, qu'on a vu d'ailleurs récemment dans La Chute de l'Empire américain, dans un air un peu, mafieux, on pourrait dire ça comme ça,
peu vieilli. Il est plus motard que mafieux. Mais
ouais, disons motard, effectivement. Et ben, dans ce cas-ci, il va être encore plus vieilli parce que, en fait, le film sera adapté du livre « Il pleuvait des oiseaux » de Jocelyne Saussier, que je n'ai pas lu du tout. Mais cela dit, on voulait un homme assez âgé, avec une barbe, qui savait chanter, jouer de la musique. Et alors, c'est un peu tout ce qu'on sait du film. On sait que Rémi Girard, non seulement chante, mais va chanter et jouer de la guitare, et qu'il va avoir une barbe blanche dans ce film. Donc, un Rémi Girard un peu vieilli, a-t-il dit « J'ai quand même un bon 68 ans ». Alors, pour se faire valoir, évidemment, parce qu'au début, on pensait qu'il était plus jeune. Alors voilà l'histoire. On verra ce film-là.
On a hâte de voir ça.
Moi, j'ai une nouvelle cette semaine à propos du directeur français reconnu, Luc Besson, qu'on a vu plus récemment dans Valérian et les Mille Planètes, qui vient d'être accusé de plusieurs accusations de viol et d'inconduite sexuelle par plusieurs femmes avec qui il a travaillé sur différents tournages, entre autres sur Valérian, où est-ce que des gens ont eu peur pour leur carrière. Un autre moment MeToo qui risque de faire mal au cinéma français.
Absolument. D'ailleurs, que Luc Besson, comme je l'ai dit la semaine dernière, avait déjà des problèmes financier avec son école. Alors, on verra ce que ça donnera.
Yes, la suite dans les prochaines nouvelles. Mélina?
Oui, moi, aujourd'hui, on va vous en parler plus tard, mais ma nouvelle, elle concerne Pierre-Luc Funk puis Jean-Carl Boucher.
Oh.
Jean-Carl Boucher qui tient un rôle dans le film 1991. Et en fait, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de travailler sur un projet original ensemble, donc une série humoristique qui va être présenté à la télévision en 2019. Oui, et semble-t-il que ça va s'inspirer un peu des Invincibles.
Ah bon?
La série. Donc,
ça semble très intéressant. J'aime beaucoup ce duo.
Moi aussi, j'aime beaucoup, oui.
C'est très intéressant.
C'est un duo qui a du funk.
Oh!
Effectivement.
Voilà.
Je me reconnais de moins en moins dans mon propre commentaire.
Mm-hmm.
Merci beaucoup, Mélina. Jim, tu as été voir un film cette semaine. Tu as été voir un film à propos de Russes.
Oui.
À propos de... Non, j'ai rien à dire sur celui-là.
Non, mais t'es
avec
dedans,
un nom
t'es
comme,
tout à fait dedans. C'est vraiment à propos de Russes.
Oui. Non, mais je suis au courant, j'ai lu le synopsis au moins deux fois, mais qu'en est-il de ce film qui s'appelle Salyut 7?
Oui, ben en fait, c'est effectivement une production originale russe, film sous-titré en français à la Maison du cinéma. C'est un suspense, disons, pas de science-fiction, mais de qui se passe dans l'espace. C'est réalisé par Klim Shipenko. Je pense que c'est son premier film. J'ai trouvé absolument rien sur ce réalisateur. Le film met en vedette Vladimir Vidovichenkov et Pavel Derevyanko. C'est pas, comme je vous l'ai dit, de la science-fiction. Le film raconte vraiment une histoire réelle, l'histoire de la station spatiale soviétique Salyut 7. On écoute la bande-annonce.
On a perdu le signal. Plus aucune commande de la station ne répond.
La NASA a prévu de lancer la navette Challenger le 30.
Est-ce que vous êtes en train de dire qu'ils vont chercher à nous voler notre station?
Ils ont utilisé presque tout l'oxygène pour établir l'atmosphère dans la station.
Chaque souffle d'air, la moindre molécule d'oxygène compte!
Reviens, Vladimir.
Pamir, c'est à vous. Vladimir, Victor, vous me recevez?
Est-ce que ça a piqué votre curiosité?
Ça sonne sombre.
En tout cas, je vais vous dire un truc. On sait beaucoup de choses sur la NASA. Il y a eu beaucoup de films sur la NASA, sur les entreprises américaines spatiales. Et très peu de choses, on connaît très peu de choses, enfin, il y a eu très peu de films qui ont été distribués largement qui traitent de la conquête spatiale russe, mais aussi des différentes anecdotes ou problèmes qui ont survenu. Et ce film-là en est un excellent.
On dirait presque qu'il y a eu un grand froid pendant la période des grands développements
oui,
de l'exploration.
On appelle même
spatiale.
Ça la guerre froide.
Ben oui, selon certaines sources.
Absolument. Et d'ailleurs, on fait référence à la guerre froide dans ce film-là.
Ben, ils n'ont pas le choix, en fait.
Ils n'ont pas le choix. C'est certain que ça se passe un peu plus tard. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le film Salute 7, le film se passe au milieu des années 80. On est encore dans la guerre froide, mais ça tire à sa fin. Alors que la station satellite soviétique Salute 7 ne répond plus. Alors aussi que les médias du monde entier invoquent, parce qu'ils sont au courant du problème, le danger d'un crash du satellite. Le centre de contrôle russe a une crainte supplémentaire, et là on va sentir le parfum de la guerre froide, le fait que les Américains puissent capturer Salyut 7 et s'approprier la précieuse technologie soviétique, parce que la mission Challenger qui approche a un cargo bay, ou en quelque sorte un réservoir suffisamment grand pour mettre la station satellite. Bon, évidemment, tout ça est disons un peu tiré par les cheveux, mais c'est une vraie peur qui était là à ce moment-là. Est-ce que l'intention américaine était vraiment de faire ça? On ne saura jamais. Dans tous les cas, ce qui se passe dans le film, c'est que soudainement, en fait, la station satellite cesse de répondre. Donc on reçoit plus rien du satellite, ce qui est un peu anormal, et on calcule que sa trajectoire va éventuellement faire tomber le satellite, et c'est pour ça que les médias s'inquiètent et tout ça. Donc, mission d'urgence organisée pour, évidemment, voir un peu l'état des problèmes et réparer les dégâts, si possible, remettre le satellite en fonction. Malheureusement, Salyut 7 ou Salyut 7 tourne dans tous les angles et à une vitesse d'environ un peu plus d'un degré par seconde. Donc, aborder la station à l'aide d'une navette et de la connecter est une opération périlleuse, voire absolument impossible. Tous les pilotes échouent la simulation et c'est là que le directeur de l'opération doit se tourner vers un astronaute qui a perdu son droit de voler pour des raisons médicales. Ça fait un excellent film. Il aurait vu une apparition lors d'une mission précédente et à cause de ça, il a été honnête, il l'a dit, à cause de ça, il a été écarté des missions. Alors, évidemment, ça sera une mission périlleuse et pleine d'imprévus. C'est un suspense, absolument. C'est tout à fait vrai. Des fois, on voit ça puis on se dit, oh, je sais pas, c'est peut-être juste un film d'action, quelque chose comme ça. Non, on est vraiment dans le suspense. Beaucoup de tension dans le film Salyut 7. J'ai trouvé ça vraiment très bon, franchement. On est un petit peu dans un film, je dirais, entre Apollo 13 et Gravity, si vous avez vu ces films-là, là. Donc, évidemment, c'est un peu romancé, il y a probablement des faits ajoutés, mais je pense que c'est vraiment un très bon hommage à la mission de sauvetage de Salyut 7, qui n'est pas si connue que ça, malgré ses nombreuses péripéties sensationnelles, et ça manque vraiment pas de sensations. Les acteurs sont excellents, j'aime beaucoup la pudeur et l'humilité et dans la manière de traiter les moments héroïques dans un film russe par rapport aux clichés plus patriotiques dans certains films américains.
Tous
les films américains, oui, effectivement. Non, il n'y a pas de gros plan sur le drapeau de l'Union soviétique dans le vent là, pour nous montrer...
Avec de la musique,
ouais, les ralentis, trompettes et tout ça. On n'est pas du tout dans ça. On est dans un... Effectivement, il y a du patriotisme, mais c'est à une plus petite échelle. Petit bémol, quand même, il y a des choses étranges dans ce film-là, quand même. Je dirais le seul qui m'a vraiment dérangé, c'est des ellipses pas trop claires. C'est comme ça que j'appellerais ça. Donc, la façon de faire passer du temps est vraiment bizarre, est vraiment pas claire. Il y a des moments, peut-être à deux moments précis dans le film où, par exemple, on va parler de la mission, on parle qu'il faut faire la mission, on commence à essayer de trouver du monde, puis paf, on coupe ça, la navette décolle, puis on comprend pas ce qui s'est passé, là. Il y a comme...
Il se donne des tâches, puis c'est déjà accompli.
Mettons qu'il aurait pu faire aérer ça un petit peu pour donner l'impression que le temps a passé. Là, on passe vraiment là, de avant la mission à pleine mission. Là, alors qu'on sait que c'est quand même une préparation.
Est-ce que tu penses que c'est un échec du film ou c'est du cinéma russe qui est fait comme ça?
Je pense pas que c'est généralisé. Cela dit, j'ai pas vu tant de films russes que ça, mais j'en ai quand même vu deux l'année dernière. Et... Vraiment, ça m'a... J'ai jamais vu ça. Là. Okay. Je pense vraiment que c'est une question de montage. Là. Peut-être qu'ils ont dû couper ou peu importe. Mais c'est ça. Ça, un petit peu les coins ronds, mais c'est vraiment tout ce que je peux reprocher à ce film-là. Super intéressant. Même quelques moments émotifs qui méritent, franchement, je vais être honnête, de tenir les mouchoirs pas trop loin. On réussit à aller chercher des cordes sensibles au niveau des émotions dans ce film-là, malgré que, bon, ça se passe dans l'espace, puis tu as tout le côté un peu, je dirais, loin de notre sphère d'action. Mais même là, on réussit à avoir des émotions fortes et des beaux moments, et c'est très beau visuellement aussi. Je donne donc 8.5 sur 10 à ce film-là. Il faut savoir que c'est vraiment mon genre de film aussi. J'aime beaucoup les films crédibles qui se passent dans l'espace. J'ai adoré Gravité. J'ai même vu 3 fois au cinéma ce film-là dans la même semaine.
Oh, je pense qu'il va falloir qu'on tienne un débat sur Gravité un jour. Parce
on le
fera. Ah non, pas Gravité, c'est Interstellar que j'avais.
Ah, ça, c'est autre chose.
C'est un autre département.
Mais si vous aimez les suspens spatiaux, allez voir ça. On s'habitue très, très vite à l'accent russe. Et franchement, c'est fort agréable à voir. Ah oui, ça vaut la peine à voir.
Excellent. Merci beaucoup, Jim.
Merci.
Hey, moi, j'ai été voir un film cette semaine. Voir un extraordinaire film impossible.
Ooh. Oh, le film que t'attendais.
Mission impossible. Ooh. Non, pas tant. En fait, je suis pas, malgré tout ce qu'on peut penser de moi, je suis pas nécessairement le plus grand fan de Mission Impossible que l'on connaisse. J'ai toujours aimé les films, mais ça n'a jamais été plus que ça, en sens que, à part pour comme Top Gun puis Eyes Wide Shut, Tom Cruise m'a jamais fait tant d'effets que ça.
Pour vrai, mais t'arrêtes pas de parler pour Tom Cruise depuis le début de l'émission.
Non, c'est juste parce que, en opposition à toi, j'ai l'air de parler en bien de Tom Cruise parce que tu lui voues une haine qui n'a pas lieu d'être.
Je me mélange, mais c'est toi, Jim, qui parle tout le temps.
Moi, je me souviens, je pense que je peux exactement quoter Louis qui dit... J'aime vraiment quand il court, ce gars-là. C'est le seul acteur de film d'action qui réussit à courir puis à sourire en même temps puis que ça marche.
Oui, ça veut pas dire que... Mais c'est vrai. Puis d'ailleurs, je pensais justement à toi cette semaine parce que avec la sortie de Mission Impossible, Rotten Tomatoes a fait des calculs et ont calculé que plus Tom Cruise passe de temps à courir dans un film, mieux le film est coté à Rotten.
Wow!
Alors, j'attends impatiemment le prochain film de course avec Tom Cruise.
Ben, je pense que le prochain, ça devrait être un biopic sur Usain Bolt, puis avec Tom Cruise qui joue comme son rival de toujours qui court en même temps. Ou quelque chose sur le marathonien. Tu sais, je sais pas. Mais peut-être.
Intéressant.
Mais oui, en fait, c'est parce que je trouve que les Missions Impossibles, souvent, c'est comme la version américaine allégée de James Bond. Parce qu'on a un peu toujours le même setup, c'est-à-dire un héros charmant et suave qui sauve le monde en essayant de sauver ses amis en chemin. On a une espèce de nerd qui est joué avec brio par Simon Pegg, que j'adore comme acteur. On a un helper, on a toujours...
Des technologies le fun.
Des Nathan Girl, qui vont être comme ces femmes qui tournent un peu autour. Il y a toujours des histoires d'amour, des histoires de... Fait que c'est bon, mais c'est jamais le film que j'attends avec impatience. Quoique, c'est sûr que j'ai toujours une appréciation particulière pour Mission Impossible 4, puisqu'il y avait Philip Seymour Hoffman, que j'adore. Feu, Philip Seymour Hoffman. Mais c'était ça. Fait que j'attendais pas ça avec nécessairement beaucoup de trépidation dans mon cœur. Je me disais, ça va être bon, peut-être. En fait, je trouvais que à 6 films, leur track record, leur historique était trop bon. Parce que ça fait 6 films qui sortent.
C'est vrai que d'habitude.
Les 5 derniers sont tous bons. Ils sont pas extraordinaires, mais ils sont pas mauvais. C'est pas des flops.
Il faudrait dire que juste le premier qui est pas écoutable.
Le premier
parce que moi, j'ai pas aimé le troisième non plus.
Le premier est correct. Le 2 et le 3 sont bons. Le 4 et le 5 sont excellents. Le 6, j'y arrive.
Ouh, mais il y a du suspense.
Il y a du ça. Non, mais il faut que j'en crie. Là.
Ben
c'est
oui,
un film d'action. C'est bon, sinon, il n'y a rien. Rapidement, le synopsis. Lorsque Ethan Hunt et son équipe sont incapables de mettre la main sur de l'armement nucléaire, l'équilibre de la planète est mis en péril. La CIA dépêche l'agent August Walker, joué avec beaucoup de talent par Henry Cavill, qu'on a connu comme étant Superman, pour le récupérer, tout en prenant soin de garder Ethan à l'œil, qui est soupçonné de trahison. Un groupe positionné en France est prêt à échanger du plutonium contre Solomon Lane, le dangereux chef du syndicat. Ethan Hunt ne voit pas cette situation du bon oeil. Il devra trouver un moyen de protéger ses arrières avant que la situation ne lui explose au visage. Donc, le cast habituel avec Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames et Rebecca Ferguson sont présents. En opposition avec Henry Cavill et Sean Harris, réalisé encore une fois par Christopher McQuarrie, qui a fait aussi Mission Impossible 5, La Nation Rogue. On va aller écouter la bande-annonce.
Vous avez pris une décision difficile à Berlin. Une vie perdue pour en sauver des millions. Cette fois, c'est le monde entier qui est en danger.
C'est la mission de la CIA. S'il avait gardé le plutonium, nous n'aurions pas cette conversation.
Toute son équipe serait morte.
Oui, probablement. Ce sont les risques du métier.
Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé.
Tu ferais mieux de t'en aller.
S'il te plaît, ne m'oblige pas à être contre toi.
Combien de fois Hunt a-t-il été trahi par son gouvernement ? Désavoué, mis sur la touche. Combien de temps un homme comme lui peut-il supporter ça avant de décider que ça suffit ?
Bah, c'est un film d'action, hein?
C'est une bande-annonce haute en couleurs.
J'aimais bien la trame sonore, elle était entraînante.
C'était vraiment bien choisi. En fait, je vais le dire, j'ai bien aimé Mission Impossible Fallout, parce que, surtout avec un été qui a été passablement décevant en termes de films d'action ou en termes de films vraiment violents, à l'exception de Le Justicier 2 de la semaine passée, j'ai rien vu qui a vraiment qui m'a fait lever le poil de bras. J'ai rien eu d'excitation viscérale comme l'a pu me faire les films de l'été dernier. J'ai pas encore trouvé mon Baby Driver de 2018.
Mais c'est vrai qu'on dirait que cet été, les films, pour l'instant, c'est y a rien qui casse des briques.
Quand je dis que mon favori jusqu'à présent, c'est Ant-Man et la Guêpe, qui était bon, c'est dur. C'est très dur. Le Justicier 2 était excellent, mais...
Moi, je peux pas en dire autant. Mes films, bizarrement, je les trouve meilleurs cette année que l'année passée.
Ouais,
c'est
mais
fou,
tu vas voir la comédie française. À un moment donné, c'est une syndrome de Stockholm. C'est pas la même chose. je m'excuse.
Laisse donc faire.
Mais là, mais quoi que le retour du héros avait l'air vraiment bon, je suis triste que ça n'ait pas été si.
Ah, ouais, École Buissonnière, plein de bons films.
Oui, bref. Non, c'est ça. Fait que c'était bon, c'était intéressant, c'était effectivement ça. C'est un retour aux sources en termes de formule, c'est-à-dire qu'il y a de quoi de mal qui se passe. Nathan est envoyé sur place. Sauf qu'il est mis face au choix, on l'entend dans la bande-annonce, entre tuer un membre de son équipe ou sauver le plutonium, et il décide de ne pas tuer un membre de son équipe. Et donc, il perd le plutonium, qui est du plutonium enrichi, qui est d'ailleurs un shout-out au réalisateur et au scénariste de ce film-là, parce qu'ils ont réussi à nous faire croire aux différents trucs technologiques présents dans le film. C'est crédible comme setup, c'est-à-dire que quand il y avait une menace... On croyait, c'était crédible savoir d'où venaient les explosifs, c'était crédible quel plan il allait utiliser pour détruire la planète, pourquoi il voulait détruire la planète, tout était bien mis en place. Les scènes d'action étaient intéressantes. On voit beaucoup d'influence des films d'action plus contemporains, c'est-à-dire qu'on a des plans de plus en plus longs. On profite du fait que Tom Cruise est un acteur qui fait ses propres cascades. On profite du fait aussi qu'Henry Cavill sait se battre, donc on le voit à quelques reprises là, vraiment bien empoigner l'ennemi. Par contre, c'est sûr que ça reste, c'est pas au même niveau que des scènes comme John Wick ou Atomic Blonde ont pu nous fournir. Mais c'est pas nécessaire, parce que ça se veut un film qui est beaucoup plus rapide que ça. Ça se veut un film qui, oui, met de l'emphase sur l'action, mais aussi sur ces situations un peu attrape la mort à la dernière minute, ou ce qui se rattrape à quelque chose, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en danger. À quelques reprises, on voit de ces moments où est-ce que tout va mal aller. Et je révélerai pas si ça va bien, mais le set est déjà annoncé.
Moi, j'ai l'impression que ça finit quand même bien.
Mais c'est un peu comme James Bond. Tu sais toujours qu'à la fin de James Bond, comme tue le méchant, ramasse la fille, gagne, se fait bien voir du MI6. C'est juste qu'on sait jamais comment. Et c'est le même scénario, c'est la même crainte qui nous est fournie tout le long. Il y a rien... comment je peux dire ça? J'ai bien aimé le film. Il y a rien dedans qui m'a fait dire « Wow, cette scène est extraordinaire! » Mais tout le long, j'y ai cru. J'ai voulu être là. Le travail d'acteur était très bon. C'est sûr que je l'admets, j'ai un faible vraiment fort pour Simon Pegg. Il est sous-utilisé ici. Mais en même temps, c'est un humoriste à la base, donc c'est plus difficile de vraiment le faire voir dans un film d'action. Bref, je donne un 8.5 sur 10 à Mission Impossible Fallout. Je pense que ça vaut définitivement la peine. Je pense que c'est plus que juste un moment pour passer à l'air climatisé. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Rapidement, pour ceux et celles qui n'ont pas vu ou qui n'ont peut-être pas la mémoire de Mission Impossible 5, La Nation Rogue, ou Mission Impossible 4, Vous avez manqué certains aspects. D'ailleurs, j'en ai manqué quelques-uns parce que j'ai pas une très bonne mémoire de ces choses-là. Mais pas assez pour perdre le fil de l'action. On nous explique bien qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça. Ça vaut la peine, même si on n'est pas fan de la série. Mission Impossible.
Eh bien, intéressant. Ouais. Peut-être y aller. Peut-être, s'il fait chaud.
À considérer. Moi, je te le recommande fortement.
OK.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti!
Alors, dans mon moment favori de toutes les émissions, qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? 7 jours, pas plus. Comédie franco-belge réalisée par Hector Cabello-Reiss, mettant en vedette Benoît Poelvoorde, Pito Bache, Alexandra Lamy, Anne Giroir, Jean-Philippe Lejeune et Sébastien Varroquet. Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincailler célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu et une jolie Normande qui aime les quincaillers maniaques? Une simple question. Tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard?
Hey, mais j'ai vu ce film-là. Il y a plusieurs années au cinéma. Il y a une vache qui tombe du ciel, il y a un quincailler maniaque qui donne plus de vis que j'ai pensé à ce film-là aujourd'hui en plus.
Ah! C'est un remake du film El Chino, écrit et réalisé par Sébastien Borenstein et sorti en France en 2012.
C'est pour ça. Il me semblait aussi.
OK, fait que...
C'était
donc,
weird.
7 jours pas plus, c'est un remake. Donc, c'est pour ça que Jim est sûr de l'avoir déjà vu, de El Chino qui est sorti en 2012. C'est quand même un 6 ans de différence entre les deux. C'est pas... Mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce qu'il y en est de la nouvelle version. Dans la brume, science-fiction franco-canadienne réalisée par Daniel Roby, mettant en vedette Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Ardouin, Michel Robin, Anna Gaylor et Raphaël Grenassian. Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans information, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe. Mais les heures passent et un constat s'impose. Les secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s'en sortir, tenter sa chance dans la brume. Largué, comédie française réalisée par Héloïse Lang, mettant en vedette Miu Miu, Camille Cotin, Camille Chamou, j'ai rien inventé, Joanne Eldenberg, Thomas Simeka et Olivia Côté. Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock'n'roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d'accord sur rien, à part sur l'urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu'elles se sont donnée est simple, sauver maman, et dans le cadre des opérations bien définies. Un club de vacances sur l'île de la Réunion. Le prochain, c'est un film qui n'a pas été traduit en français, c'est The Miseducation of Cameron Post. C'est un drame sentimental américain réalisé par Désiré Akavan, mettant en vedette Chloé Grace Moretz, Quinn Shepherd et Jennifer Healy. Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God's Promise, établissement isolé au cœur des Rocheuses. La faute de Cameron? S'être laissé griser par ses sentiments naissants pour une autre fille, son amie Collie. Parmi les pensionnaires, il y a Marc, l'introverti, ou Jeanne, la grande gueule. Tous partagent cette même fêlure, ce désir ardent de pouvoir aimer qui ils veulent. Si personne ne veut les accepter tels qu'ils sont, il leur faut agir.
Ça a l'air bon.
Ça a l'air trash. Ça a l'air très sombre. En tout cas, ça... Oh. Le prochain, je pense que c'est un film pour Mélina. C'est Megalodon, version originale de Megalodon. Horreur américain réalisé par John Turtlebaub. Mettant en vedette Jason Statham, Ruby Rose, Rain Wilson, Bing Bing Lee, Cliff Curtis et Robert Taylor. Missionné par un programme international d'observation de la vie sous-marine, un submersible a été attaqué par une créature gigantesque qu'on croyait disparue. Sérieusement endommagé. Il gît désormais dans une fosse au plus profond de l'océan Pacifique où son équipage est pris au piège. Il n'y a plus de temps à perdre.
Effectivement.
Quoi?
Un film pour Mélina.
Un film pour Mélina.
Ben oui, je vois pas du tout pourquoi ce serait pas un film pour moi.
Non, tout est là, en fait.
Ouais.
Action, désastre naturel, horreur.
Ouais. Jason Statham.
Ouais.
Jonas Taylor, sauveteur-plongeur, expert des fonds marins, est engagé par un océanographe chinois particulièrement visionnaire contre la vie de sa fille Suyin. Taylor a pour mission de sauver l'équipage et l'écosystème marin d'une redoutable menace, un requin préhistorique de 23 mètres de long connu sous le nom de Megalodon. Je vous annonce déjà que je sais quoi mon film que je vais voir cette semaine-là.
Ça?
C'est non. Ah. Opération Infiltration, version originale de Black Klansman. Drame policier réalisé par Spike Lee. Spike Lee que j'ai beaucoup aimé dans le passé. Mettant en vedette John David Washington, Adam Driver, le début des années 70 était un temps de révolte sociale pendant la lutte pour les droits civils. Ron Stallworth devient le premier détective afro-américain dans le service de police de Colorado Springs, mais son arrivée est accueillie avec des doutes et une hostilité manifeste par les agents de police. Loin de se démonter, Stallworth résout de se faire connaître et de changer les choses pour sa communauté. Il se fixe une mission dangereuse, infiltrer et exposer le Ku Klux Klan. Stallworth se fait passer pour un raciste extrémiste, contacte le groupe et se retrouve bientôt invité à rejoindre son cercle rapproché. Il entretient même une relation avec le grand sorcier du clan qui fait l'éloge du dévouement de Ron envers l'avancée d'une Amérique blanche.
C'est-tu basé sur des faits vécus parce que...
Yep, c'est basé sur un livre qui a été écrit il y a 2 ans en fait, de l'histoire du dos de Ron Stallworth. A écrit sa propre biographie puis personnellement à propos de cette histoire-là. Donc effectivement, Colorado Springs dans les années 70, la première grosse action d'infiltration du Ku Klux Klan s'est faite par un homme noir.
Fort intéressant.
Uh-huh.
Fort intéressant.
Par amour des chiens, version originale de Dog Days, réalisé par Ken Marino, mettant en vedette Nina Dobrev, Finn Wolfhard, Vanessa Hudgens et Thomas Lennon. Durant l'été à Los Angeles, un groupe de personnes se retrouve liées grâce à leur amour commun pour leur compagnon canin.
Oh boy.
Et pour finir, Slenderman, horreur américain réalisé par Sylvain White, mettant en vedette Joey King, Annalise Basso et Javier Bottin. Slenderman raconte l'histoire d'une grande et effrayante silhouette avec des bras anormalement longs et un visage chantré qui est soi-disant responsable de la disparition d'innombrables enfants et adolescents. Aussi un phénomène culturel d'importance aux États-Unis. Fait que c'était ça pour les sorties.
Merci,
hein?
Oui.
Hein? Merci. Mais non, cette semaine, t'as pas été voir de film au cinéma.
Non.
En fait, t'as été voir le même que Jim puis moi.
Oui, c'est vrai. En fait, je suis allé voir un film au cinéma, c'est 1991, mais j'en ai pas vu d'autres.
Jim puis moi, on en a vu 2 cette semaine. Linda, es-tu devenue paresseuse?
Ben, écoutez, le film que je devais aller voir était Teen Titans, le film.
Ça t'a pas inspiré.
Ça m'inspirait pas. Non, je sais pas pourquoi, mais j'étais tannée de ces genres de films-là. Fait que j'ai décidé de re-regarder les films 1981 et 1987 et de vous en parler aujourd'hui parce que comme le film 1991 est sorti, je me suis dit que ça serait intéressant de revenir sur les 2 premiers films de sa trilogie autobiographique.
De Ricardo Troggi.
Effectivement, de Ricardo Troggi. Donc, en plus de cette trilogie-là, il faut savoir qu'il a co-scénarisé et réalisé les films Québec-Montréal, Horloge biologique et plus récemment Le Mirage. Son père est vraiment italien et sa mère vient vraiment de la Côte-Nord. Et il a une sœur qui s'appelle Nadia. Et donc, en 2009, c'est là qu'il a réalisé le premier film, le film 1981, qui se déroule lorsqu'il avait 11 ans. Et la suite, donc 1987, est sortie en 2014. Et là, bon, c'est ça, on a le troisième volet, 1991. Donc, on va parler un peu des acteurs, parce qu'il y a 4 acteurs, en fait, qui reprennent leur rôle de film en film. Il s'agit de Jean-Carl Boucher, qui joue Ricardo Troggi, Sandrine Bisson, qui joue le rôle de la mère de Ricardo.
Oh!
Elle est excellente. Moi,
elle
je trouve
est colorée, elle.
Hein? Elle fait une performance...
Elle est incroyable.
Incroyable.
C'est très crédible.
Oui, oui.
Oui, on a Claudio Colangelo, qui va jouer donc le père de Ricardo.
Basta!
Voilà. Et Rose Adam, qui joue la sœur de Ricardo, Nadia. Rose Adam, qu'on a vu dans récemment Charlotte a du fun, elle jouait la meilleure amie.
C'est vrai, c'est là que j'avais vu son visage.
Celle qui était un peu plus gênée, qui aimait bien faire de la planche à roulettes.
Donc,
voilà. Et la narration de chacun des films est faite par Ricardo Troggi lui-même, avec un ton très léger et humoristique. Je lisais une entrevue avec Ricardo Troggi, puis parce que dans le fond, il faut savoir que lui, au départ, il n'avait pas prévu de faire une trilogie. Il a juste fait le film 1981, ça l'a pogné, puis il a décidé de faire ensuite 87. Et là, on lui a demandé « Est-ce que tu vas poursuivre avec un quatrième film? » Puis là, il hésite encore à savoir s'il va donner suite, mais ça se pourrait bien que oui, parce que c'est vraiment un succès. Moi, je pense que les points forts, on va reparler tantôt de toute façon, mais je pense que les points forts de ces films-là, c'est vraiment le ton humoristique et un peu absurde qui est utilisé pour raconter les histoires. Dans 1981, il va réussir à rendre des situations très banales, mais super drôle. Dans 1987, quand il est âgé de 17 ans, là, c'est des anecdotes qui sont vraiment absurdes, mais qui somme toute, sont très drôles. Je pense notamment à quand il se met à voler des radios de voiture. Mais ça, on va en reparler tantôt aussi. Donc, on va aller écouter la bande-annonce du film 1981.
En 1981, ma vie a commencé à se compliquer quand j'ai changé d'école.
Il s'appelle Ricardo Troggi. C'est trop G.
J'avais pas d'amis, à part ma sœur. J'avais un peu un gros cul. Je pensais que je savais écrire en lettres attachées. Puis je passais la moitié de mon temps dans le catalogue distribution aux consommateurs. Puis l'autre moitié à courir après Anne Tremblay. Mais tout ça, personne ne l'a jamais su. Parce qu'en 1981, je suis devenu menteur.
Donc, c'était la bande-annonce du film 1981. Donc, comme il disait, il vient de déménager à Sainte-Foy, donc dans une banlieue paisible de la classe moyenne. Le père de Ricardo Benito, donc, a vécu la misère durant la Seconde Guerre mondiale avant d'immigrer au Québec. Et il n'a jamais vraiment étudié à cause de ça. Et donc, il joue de l'accordéon un peu pour ramasser d'argent pour la famille. La mère, Claudette, elle vient aussi d'une famille modeste de la Côte-Nord. Et ils ont Ricardo, leur fils de 11 ans, mais lui, comme il dit, il passe son temps à regarder le catalogue distribution aux consommateurs. Quand il arrive de sa nouvelle école, c'est là qu'il va commencer à mentir parce qu'il veut devenir ami avec la gang des Kiwis rouges. Et c'est là qu'il va commencer
les
à mentir.
Les cools de l'école.
Exactement, les cools de l'école. Et il va leur faire à croire qu'il a accès à des magazines pornographiques, mais il va jamais les apporter à l'école parce qu'effectivement, il a juste pas accès à ces magazines-là. Sa mère veut qu'il travaille comme Camelot, lui, il veut pas. Mais voilà, c'est ça, la réalité le rattrape un peu plus tard dans le film quand il se rend compte que son père travaille à faire de la musique dans un centre commercial. Et finalement, la famille va devoir vendre la maison parce qu'il arrive pas à finir à payer l'hypothèque, en fait. Ce qui est vraiment drôle dans le personnage de Ricardo, je pense, c'est que, comme il dit, c'est là que je suis devenu menteur, mais c'est un peu ça qui fait en sorte qu'il se met toujours les pieds dans les plats dans chacun des films, c'est qu'il dit pas vraiment la vérité, il va pas vraiment s'assumer, puis là, ça va lui créer quelques problèmes. Dans le film 1987, c'est encore plus flagrant, parce que là, rendu âgé de 17 ans, il va encore moins prendre ses responsabilités, mais là, ça va plus se retourner contre lui, donc ça donne lieu à des situations très cocasses. Et j'ai lu aussi en entrevue qu'il disait que toutes les situations qui lui sont arrivées dans les films, lui sont vraiment arrivés dans la vraie vie, donc il n'y a pas rien d'inventé. Surtout comme là, on va parler du film 1987, en fait, qui est le deuxième film. Dans ce film-là, à un moment donné, il se fait arrêter carrément par la police, il s'enfuit.
T'as peu. Il manque quelque chose d'important, là.
Quoi?
T'as note sur 10 pour 1981?
1981, j'y donne un 7.5.
OK, c'était bon, mais sans plus.
Ben, c'est un bon film, je trouve, qui place bien les personnages.
Mm-hmm. Oui. Okay.
Je pense que on retrouvera pas la même profondeur au niveau des personnages dans 1987-1991 parce qu'on les connaît déjà, exactement. Tandis que 1981 va s'ouvrir sur un clip en noir et blanc qui raconte un peu l'histoire du père de Ricardo, qui est très absurde, très drôle aussi. Donc, j'ai trouvé très crédible, c'est un très bon film, mais je trouve que 1987 est encore plus drôle juste par l'humour des situations qui vont arriver dans ce film-là. Donc, avant d'en parler plus, on va aller écouter la bande-annonce de 1987.
Oh, maman, je dors, là!
As-tu trouvé un job?
Non, j'ai pas trouvé de job depuis hier. Puis en venez-en, là, je viens de vivre 5 ans de secondaire, je peux avoir une couple de semaines de relaxation.
Ça fait 5 ans, tu relaxes!
Qu'est-ce que tu fais là?
Je veux rien savoir des ressources humaines. Plus tard, je vais être en affaires.
Je veux dire, vous voulez qu'on décide de notre avenir à 17 ans, mais ouh, pas question de rentrer dans un bar avant 18.
On va dans tes cas.
Faut ouvrir une discothèque.
Une discothèque?
Ça prend juste 5 000 $.
Je vois que t'as juste 9 $ dans ton compte.
C'était pas 11.
T'as besoin d'un prêt. Donc, t'as besoin d'un job.
Tu ressembles à un serveur de Normandin.
Allez-vous-en, là, OK?
Encore! Lâche-toi, Mono, viens souper!
Vierge, ta blonde, n'est pas
là. On serait peut-être mieux d'attendre encore, non?
Ça a-tu été long avant qu'elle veuille?
J'ai encore pensé.
Encore?
Donc, c'était la bande-annonce du film 1987. Donc, on retrouve les mêmes personnages. Donc, Jean-Carl Boucher qui va reprendre le rôle de Ricardo Troggi. Mais là, il va avoir Pierre-Luc Fung qui va venir jouer un de ses bons amis. Donc, et ils sont à la fin de leur secondaire 5. Donc, Ricardo veut sa propre voiture. Il veut perdre sa virginité et rentrer au Dagobert à Québec, en fait, une discothèque. Et il n'a aucune idée, par contre, de ce qu'il veut faire dans sa vie. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que je trouve que c'est le film qui va aller le plus dans le côté absurde. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on le voit entrer dans une salle où il y a plusieurs ministres qui décident de lois. Et là, il lui explique...
Comme si il était là au moment où ces décisions-là ont été prises. Exactement. Au niveau politique. Puis il arrive, il fait juste se mettre les pieds sur la table, puis il commence à expliquer « Ah non, non, vous comprenez pas. » Puis là, les gens l'écoutent comme s'il était vraiment intéressé.
Oui, c'est ça.
Tu vois qu'il est comme dans, on est un peu dans son imagination un peu, mais je trouve ça vraiment très bon aussi.
Je trouve que c'est celui qui pousse le plus trois films de ce côté-là. Puis ça rend ça extrêmement drôle. Et il arrive, comme je disais, plusieurs situations, c'est-à-dire que son père, à un moment donné, lui offre de travailler avec lui au restaurant où lui-même joue de l'accordéon. Et Ricardo sera donc le valet, donc la personne qui va reconduire les voitures. Et là arrive un homme avec une BMW ou une voiture de luxe, en tout cas. Et Ricardo va décider d'aller faire un tour avec ses amis qui sont passés là par hasard. Et là, finalement, ils finissent par scraper carrément la BMW au complet, le dessous de la voiture. L'auto ne fonctionne plus. Et là, il dit à son patron. Son patron dit d'aller le dire au client. Puis là, comme je disais tantôt, il dit pas tout à fait la vérité. Il dit, il y a eu un petit accident avec ton auto, mais mon patron a dit qu'il allait s'occuper de ça et que tout allait être correct. Et ensuite, il fait juste se pousser carrément chez lui, hein, parce que, comme vous avez sûrement déjà fait, moi, j'ai fait des choses comme ça à 17-18 ans. Quand tu veux pas prendre tes responsabilités, des fois, tu rentres chez toi, tu te caches la tête en dessous de ton oreiller, puis t'attends que les choses passent.
Moi, ça m'est jamais arrivé. Non.
Oui.
Ouais.
C'est comme la limite de j'ai 12 ans, puis quand je suis dans mes couvertes, il n'y a rien qui peut m'arriver. Puis j'en ai 17, puis je peux juste assez mettre la merde pour savoir que c'est pas vrai, mais.
Tu peux y croire quand même pendant un certain temps. Bon, OK.
Au moins espérer que le pire de la colère passe.
Exactement. Je pense que c'est ce qui est un des points forts, justement, dans ces films-là, c'est qu'il va aborder des situations qu'à peu près tout le monde peut s'identifier. Dans le film 1991, c'est plus au niveau de la thématique des voyages. Dans ce film-là, 1987, moi, je sais que ça m'a beaucoup marqué parce que quand j'avais 17 ans, j'avais un peu cette personnalité-là de me dire ils veulent qu'on choisisse justement qu'est-ce qu'on est censé faire dans la vie. Mais effectivement, on ne peut pas sortir dans les bars. Donc, démontrer toutes ces absurdités-là. Le film 1987 est entre les deux celui que j'ai préféré parce que je trouve que l'humour est encore plus développé. Il y a la sœur de Ricardo, de Nadia, qu'on ne voit pratiquement pas du film, mais je pense que ça illustre très bien la relation qu'il avait probablement avec elle. Lorsqu'il avait 17 ans, je pense qu'il ne voyait pas vraiment sa sœur, ce qu'elle faisait.
Moi, je voyais vraiment ça comme sa sœur en relation avec ses parents, là. La vraie adolescente, là, un peu, parce qu'elle est en plein dans l'adolescence. Mm-hmm. Lui, il achève un peu son adolescence.
Oui.
Moi, je pense que c'est vraiment la crise d'adolescence, elle s'enferme.
Mais on ne la voit pratiquement pas du film. Moi, c'est ça que je trouve intéressant.
Oui, hein, c'est super bien fait.
Pour illustrer le fait qu'ils n'ont pas vraiment de relation à cet âge-là. Puis la mère qui est un peu hystérique, on n'en a pas vraiment à parler, mais la mère est un personnage que je trouve excellent. Je la trouve extrêmement drôle. Mm-hmm. Elle va se mettre en colère pour des choses complètement absurdes, sauf qu'on réussit à rendre ça drôle et intéressant parce qu'une même situation pourrait ne pas être drôle. Mais Ricardo réussit à vraiment laisser ressortir le côté comique de la situation.
C'est bien fait.
Pour le film 1987, ma note est d'un 9.
Ah, ta 9 est un note.
Mon 9 est une note.
Puis maintenant, j'ai faim d'une omelette. Bon. Fait que 9 sur 1987.
J'ai vraiment beaucoup aimé 1987. Je sais que toi, Jim, t'as vu les deux, je sais pas.
J'ai tout vu aussi, mais...
Quel t'as préféré?
Ah, mais moi aussi, j'ai préféré 1987. Moi, je donnerais aussi peut-être un 7.5 au 1981. Et, mais par contre, je donnerais peut-être pas un 9 à 1987, je donnerais peut-être un 8.5.
Ça,
mais...
c'est parce que Jim n'aime pas le plaisir. Voilà.
Ah non, mais il était super bon, ce film-là. Cela dit, je vous en parle tantôt.
Excellent. Bon, on va enlever le micro à Mélina. On la force à rendre le bâton de parole à d'autres autour de la table, parce que c'est moi qui prends en charge un peu.
Bon.
On serait donc rendu parler aux héros de l'heure, aux champions de la demi-heure, à la raison pourquoi est-ce qu'on est ici et qu'on jase de toutes ces choses-là, c'est-à-dire le plus récent film de Ricardo Trogi, 1991.
Voilà.
Avant de se mettre dans le bain, je vais vous lire le synopsis. Ricardo a maintenant 21 ans. Quand l'amour de sa vie lui demande de l'accompagner en Italie pour suivre des cours d'été, le jeune homme ne peut s'empêcher d'accepter son invitation. Rempli d'espoir, Ricardo quitte le Québec à la poursuite de l'amour. Sur sa route, il rencontre une panoplie de personnages colorés, dont le bohème Arturo et le séducteur Mamadou, à travers lesquels il apprendra des leçons de vie importantes et nécessaires. Si les voyages forment la jeunesse, celui-ci transformera jamais l'adulte que Ricardo est sur le point de devenir. Pour encore plus se mettre dans le bain, la bande-annonce.
OK. En 1991, j'étudiais en scénarisation cinématographique. Mais j'étais pas là pour le diplôme. Moi, j'étais là pour elle, Marie-Ève Bernard. C'était la femme de ma vie.
C'est ma
toune! En tout cas, j'étais prêt à tout pour la rendre heureuse.
Je pense que j'ai fait une connerie.
Fait que là, tu t'en vas en Italie.
Attends pas de venir avec moi.
Où t'as ça d'argent pour aller étudier en Italie?
J'ai passé l'année à étudier, je sors presque jamais, j'en ai assez.
Et? C'est toi, tu crois que tu vas apprendre l'italien en un mois?
Ton père, ça fait 35 ans qu'il est ici, il est de misère à parler français.
Basta!
Là, tu te vois chier comment il était fait,
là! Hey, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, moi aussi. Sauf que rendu là-bas, ça commence à se compliquer en Simonac. Il y a un Espagnol qui a essayé de m'avoler, me suis perdu, j'ai rencontré du monde weird, j'ai un petit peu trop fait le party. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé avec une fille que je connaissais pas.
Ouais.
Après avoir vu le film, la bande-annonce, c'était vraiment...
Ouais. Il est très doué, je trouve, pour ce, au niveau des narrations, des bandes-annonces aussi.
Mais je trouve que ces bandes-annonces sont toujours bien calquées sur le film. J'ai jamais vu comme dans ces trois bandes-annonces, il n'y a rien qui est trompeur. Ou, on est vraiment dedans. Même des fois, il fait une narration pour la bande-annonce.
En même temps, il a fait une bande-annonce pour l'horloge biologique, puis on aurait cru que c'était un vrai film et pas juste une pile de vidange.
Ah, mais j'ai pas vu l'horloge biologique.
Fais-le pas. Continue sur ta lancée, t'as plus de bonheur comme relatif dans ta vie.
D'accord, c'est noté.
J'ai beaucoup de haine envers ce film-là, mais c'est très personnel.
Challenge accepted.
Fais pas ça.
Moi non plus, je l'ai pas vu. J'avais vu, j'ai vu Québec-Montréal. Je l'avais.
Québec-Montréal qui était correct.
C'est bien.
C'était pas extraordinaire, mais c'était correct.
Ouais,
mais non, pour moi, l'horloge biologique est à peu près au même niveau que Trip à 3 ou 3 petits cochons.
Oh boy, tant que ça.
Oh! Mais c'est les affaires de maternité, paternité dans mon...
C'est pas dans ton style. Ça vient pas me chercher.
Ça vient pas me chercher. Mais bref, on est là pour parler de 1991.
Absolument.
Fait que je vais commencer par mes impressions du film. Puis je le signe que je commence... Rough. Moi, je n'ai pas vu 1987 ni 1981. Moi, c'était la première fois que je rentrais vraiment dans l'univers de Ricardo Trogi de manière aussi brutale. C'est-à-dire que c'est directement, c'est à nu, c'est candide comme vision de sa vie. J'ai pas... C'était correct.
T'as pas trippé?
Non. Non, parce que c'est une comédie qui est un film d'adolescent. C'est-à-dire que oui, il y a 21 ans, mais... Honnêtement, c'était calqué sur Eurotrip ou à peu près comme scénario. T'as pas vu Eurotrip?
Non, j'ai pas vu Eurotrip.
La scène de jumeaux était quand même charmante.
Ah, d'accord.
Mais non, c'est un film d'ado avec des problèmes d'ado, avec des solutions d'ado. Puis oui, il y a quelques blagues qui m'ont fait rire à éclat, mais aussi quelques blagues qui sont vraiment tombées mortes pour moi. La cinématographie était vraiment jolie. J'aime beaucoup à chaque fois qu'il retournait sur le banc de l'eau pour hurler.
Gueuler, ouais.
C'était vraiment cute. Puis c'était comme un beau quatrième mur. Quelques scènes qui étaient clairement des hommages à autre chose. Il y a un hommage à Evil Dead que j'ai trouvé très charmant au début du film. Mais sans plus, j'en ai pas perdu mes pantalons. Là, c'est ça.
Bien, c'est bien.
Ouais, hein, c'est un peu rough. Jim, toi, qu'est-ce que...
Écoute. J'ai pas le choix de faire des références, malheureusement ou heureusement, au film 1987. Je parlerai pas de 1981 parce que je pense que c'était un film qui était un peu moins mature. 1987, qui, à mon goût, est un film excellent. Je lui ai donné 8.5. Cela dit, la construction du film 1987 était, à mon avis, supérieure à celle du film 1991. La façon dont le scénario était fait, que c'était ficelé, me semblait beaucoup plus à propos, beaucoup mieux. En même temps, c'est sûr qu'on est dans un contexte biographique jusqu'à un certain point. Donc, c'est certain que, bon, il y a des twists qui se passent mieux que d'autres, mais on veut pas nécessairement changer la chronologie. J'ai beaucoup aimé dans le film 1991, toutefois. J'ai trouvé que 1991 était le plus drôle des trois films. Donc, c'est là que j'ai ri le plus. C'est certain qu'il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, de running gag, si on veut, indirectement. C'est situationnel, là, mais quand on a vu les autres films avant, effectivement, juste quand on voit sa mère parler, ça nous fait déjà rire parce que c'est le personnage, on le connaît. Puis ça, c'est bien, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le traitement de ce film-là. Je trouve qu'il est cohérent avec les deux autres films. De la bande-annonce aller jusqu'au générique de fin, c'est cohérent. Ça respecte le format, la façon de faire, la manière dont il fait la narration n'a pas changé. C'est vraiment pareil. Et ça, je trouve que c'est une super belle recette. Ça marche très bien. Film très drôle. Tellement drôle que je lui donne 9 sur 10 à celui-là.
Wow!
Et franchement, j'ai eu beaucoup de fun à voir ce film-là, mais la vraie raison pourquoi je lui donne un 9 sur 10 plutôt que d'à côté le 8.5 de 1987, c'est pour toutes les références de voyage. Parce que j'ai voyagé pas mal, ouais. En sac à dos, un peu comme M. Troji, et franchement, je me suis revu dans des situations, dans de multiples... En fait, toutes les situations qui se sont passées en voyage, je les ai vécues pas exactement pareil.
Les deux Allemandes?
J'ai vécu des choses similaires.
Oh, Calvin!
Similaires. Mais j'ai pas vécu, évidemment, la scène du lit superposé. Ça, c'est quand même assez ambitieux. Ça, franchement, je l'ai pas vécu.
J'ai vécu quoi similaire au Québec? Mais,
d'accord, mon Dieu!
Chez Calvin. Okay.
Mais c'est ça. Et j'ai envie de dire... C'est magique. C'est la première fois de ma vie, et pourtant j'ai vu beaucoup de films d'exploration, de voyage, tout ça, où je retrouve vraiment c'est quoi de voyager. Peut-être d'être Québécois ou Canadien à l'étranger, mais
c'est probablement une expérience partagée du point de vue québécois. C'est-à-dire que si on peut bien dire quelque chose de 1991, c'est que c'est bien plongé et ancré dans la culture québécoise. C'est-à-dire que, sans en vouloir en faire une critique du film, je pense que c'est juste une constatation que, d'un point de vue... Lorsqu'il est question du point de vue, c'est purement d'un Québécois des années 90 garoché dans ces situations-là.
Exactement. Puis avec sa famille qui est complètement déconnectée de la situation. Puis son père qui cherche le numéro de son frère. J'aime qu'il y ait des choses qui aboutissent et qu'il y ait des choses qui aboutissent pas. Parce que je trouve que c'est voulu, puis veut pas, c'est un peu la vraie histoire, j'imagine.
Oui.
Mais ce film-là est emblématique, à mon avis, de ce que c'est que de voyager. Et je vais vous dire, honnêtement, j'ai pas voyagé dans les années 90, et c'était comme ça quand j'ai voyagé. Donc ça, c'est vraiment bien. Sinon, franchement, je me suis marré dans ce film-là, mais quelque chose de concret. J'ai vraiment trippé, tout le long, j'ai ri. Il y a des choses un peu plus drôles que d'autres. Effectivement, il y a peut-être des blagues, des punchs qui ont moins marché pour moi, mais... J'ai adoré ce film-là. Je lui donne donc un 9 sur 10.
Wow! Mina!
C'est fort, oui. Ben moi aussi, j'ai bien aimé le film. Écoutez, il faut dire que moi, je suis vendue au style aussi. Je trouve que c'est bien. C'est des beaux films autobiographiques. C'est différent, je pense, à critiquer des films autobiographiques que des fictions parce qu'au niveau de la cohérence, c'est généralement très cohérent. C'est généralement très crédible aussi, vu qu'on se base sur des trucs vrais qui se sont vraiment passés.
Ouais.
Donc, les personnages aussi sont extrêmement crédibles. Et c'est vraiment la force de ce film-là, je pense, c'est ce côté autobiographique-là. Sinon, comme tu dis, au niveau du voyage, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a plusieurs références dans plusieurs des films qui vont résonner avec différentes personnes, dépendant c'était quoi. Moi, j'ai pas nécessairement vécu les années... Ben, en fait, j'ai pas du tout vécu les années 80 parce que je n'étais pas née. Mais je pense que quelqu'un qui avait à peu près qui a l'âge de Ricardo, peut-être pour le film 1981, va beaucoup se souvenir des références au Kiwi pour au magazine distribution aux consommateurs. Ouais. La même chose pour le voyage. Je pense qu'on peut aller rejoindre facilement beaucoup de gens qui ont voyagé avec des références. Puis oui, c'est comme, on dirait, des choses qui ne changent pas. Moi, j'aime beaucoup quand le gars, Arturo, l'appelle tout le temps Canada. Genre, il dit « Hey, Canada!
Ouais, »
genre,
ouais,
c'est typique, des choses comme ça. Ouais. Tout autant que, pour moi, ça fait partie de ma réalité d'avoir 17 ans puis de vouloir vraiment fort rentrer dans des bars puis de me faire carter à chaque fois puis que ça soit comme vraiment une obsession. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut pas mal se retrouver dans certains trucs de ces films-là et c'est ça qui rend ça intéressant plus avec le côté drôle, le côté humoristique en plus. Il faut se le dire, je suis une personne qui aime l'humour un peu absurde. Donc, c'est sûr que pour moi, ça fonctionne. Donc, comme Jim aussi, je donnerais un 9 à ce film-là. Wow. Pour moi, il y a cote 1987 à un différent niveau.
Ouais.
Et je lisais justement dans son entrevue qu'il disait qu'est-ce qu'il ferait peut-être comme autre film. Après, il disait « Ah, ben après, j'ai commencé à travailler dans le monde de la publicité. » Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs anecdotes associées
clairement,
à ça. J'aimerais beaucoup beaucoup, beaucoup voir un film avec ces choses-là. Pour avoir touché un peu de loin au milieu, je pense que ça peut donner des choses très drôles et ça irait rejoindre, je pense, un autre bassin de gens qui pourraient s'identifier à son histoire.
Absolument.
Et je sais que l'acteur Jean-Claude Boucher avait dit qu'il serait intéressé à prendre le rôle.
Oui, oui, puis franchement, il est très bon. Hein.
Oui, puis il disait justement que pour lui, c'était une des plus grandes expériences qu'il a vues que de pouvoir refaire un rôle dans trois films différents avec lui-même qui évolue, parce que dans le premier film, il avait quoi, 14 ans environ, même s'il jouait le rôle de Ricardo, 11 ans.
Ah oui.
Donc, il a quand même pris de la maturité. Donc, il disait que pour lui, c'était vraiment une belle expérience. Ça doit l'être comme comédien de revisiter un rôle à différents moments de ta vie.
Oui, c'est vrai. Ça s'est fait quand même sur une période de, au-dessus de 10 ans.
Ouais.
C'est quand même bien. Mais je m'excuse.
Oui.
Non, mais c'est parce que je me rends compte, Louis, t'avais-tu donné une note?
J'ai pas donné de note.
Ah, c'est pour ça. T'attendais de voir.
Oui.
OK.
J'ai voulu garder le suspense.
Ah. Mmh.
Parce que j'ai pas. Tu sais, je suis sorti de là et je me suis dit, c'est correct. Mais comme je dis, j'ai pas le background d'avoir vu les deux premiers, j'ai pas l'histoire d'avoir grandi avec, j'ai pas autant vécu les mêmes expériences que lui. Oui, j'ai voyagé, non, j'ai pas vécu les rocambolesques aventures qu'il a vécu. Moi, mes rails de train étaient presque sans histoire. Mais j'ai pas pris les mêmes trains non plus.
Non, c'est ça.
faut dire. Mais je donnais un 7. Parce que c'était pas mauvais, c'était pas détestable. J'ai juste pas été touché autant que... Puis je sais, j'étais sur une représentation vraiment occupée. Puis il y a des gens qui ont ri du début à la fin, qui ont adoré ça. Il y a des gens qui sont sortis en disant que c'est le meilleur film qu'ils ont vu cette année. Moi, j'étais comme, correct.
Ben, je pense que c'est peut-être pas ton genre de film aussi.
Ouais.
Ça vient un peu là-dessus. C'est une comédie déjà.
C'est une comédie déjà, puis j'ai toujours de la misère avec les comédies parce que...
Parce que t'aimes pas le plaisir.
J'aime souvent, mais en réalité, c'est de la projection.
C'est moi qui... Oui, moi.
Mais j'admets avec beaucoup de candeur que les comédies, ça me travaille moins que ça l'a déjà fait. J'ai moins de fun à aller voir des comédies. Je préfère un film d'action bien ficelé ou un suspense dramatique qui me donne envie de pleurer dans ma crème glacée pendant 2 heures plutôt qu'une comédie.
Mm-hmm. Eh ben. Mais c'est bien, mais je trouve ça intéressant de voir, ça veut dire que ce film-là est quand même un succès dans le sens que même si on s'attache pas tant aux histoires comme Louis, je pense que tu as quand même apprécié pour donner un 7 sur 10 parce que Louis ne se gêne pas pour faire couler les films à plusieurs reprises.
On a même vu un film en bas de 0.
Oui, puis je recommencerais sans hésitation si j'avais à le réécouter.
Oui, c'est ça.
Je trouve ça bien. Je pense que ça montre que quand même c'est un film qui peut...
aller chercher l'humanité, même dans des blocs de granit comme moi. Je pense que c'est vrai tout pour 1991. Je pense qu'on a épuisé le sujet.
Oui.
Je pense qu'on a fait le tour des escaliers.
Voilà.
Merci.
C'est donc la fin de cet épisode. C'est ce moment tant attendu où nous allons pouvoir aller manger notre propre popcorn et bruncher de notre côté avec un grand plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une extraordinaire soirée et au plaisir.
Bonne semaine.
Bonne semaine.